Après ce moment merveilleux, ce moment qui auront été, Seigneur, une opportunité merveilleuse de nous tenir devant toi pour invoquer ton nom. Après ce moment, Seigneur, où tu nous as attirés à toi par ton esprit, où tu nous as donné, Seigneur, cette capacité spirituelle de pouvoir interagir avec toi depuis ton palais céleste et depuis la salle du trône. Oui, après ce moment où nous avons épanché nos âmes en ta présence et devant ta face, nous aimerions, Seigneur, maintenant, tout en étant dans ta présence, cette fois-ci, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous savons combien ta parole est importante, combien, Seigneur, elle est une véritable nourriture pour nos âmes, combien elle est source de bonne santé pour tout notre être. Et nous voulons la recevoir comme étant ta parole, celle qui a la vertu, la capacité, le pouvoir de nourrir notre âme, de faire grandir, Seigneur, notre foi et de développer ton caractère dans chacun de nous. Car le but que tu poursuis dans notre vie, Seigneur, est d'abord de nous faire ressembler à toi. Alors aide-nous en cet instant à nous abandonner entièrement entre tes mains, afin qu'à partir de ta parole et avec ta parole, tu puisses nous façonner, tu puisses nous modeler, tu puisses nous émonder. Bref, tu puisses nous donner la forme qui te convient, afin que par nos vies et à travers nos vies, tu puisses te glorifier puissamment. Oui, parle. Que ta lumière jaillisse alors que nous ouvrirons les Saintes Écritures et que les rayons de cette lumière puissante, cette lumière dans laquelle il y a la vie, oui, que ces rayons puissent, Seigneur, nous traverser et nous communiquer la vie. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes donc le 18 janvier. Nous sommes encore dans le tout début de cette année. Et nous allons revenir sur notre thème, le thème avec lequel nous avons terminé l'année 2025. Nous avons mis ce thème un peu de côté puisqu'il y a eu, le Nouvel An et puis ensuite il y a eu le premier dimanche. Il était donc important que nous puissions consacrer ces dimanches au thème que nous avons donc exploité. Mais à partir d'aujourd'hui, nous revenons à notre thème car il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à entendre de la part du Seigneur. Ce thème qui n'est autre que voir l'invisible, comment voir l'invisible, deux points, la foi en Dieu, la foi de Dieu. Alléluia. C'est donc le septième épisode. Comment voir l'invisible? Voilà une question importantissime. Voilà une question, mes amis, qui vaut tout son pesant d'or. Car nous vivons dans un monde réel, un monde tangible, un monde physique. Mais tout autour de nous, comme la parole de Dieu nous révèle, tout autour de nous, mes amis, il y a des réalités spirituelles, il y a des réalités vivantes qui échappent à nos sens, que nous ne pouvons pas appréhender avec nos sens naturels. Il y a autour de nous, mes amis, deux royaumes qui s'affrontent. Il y a d'un côté le royaume de lumière incarné par le Christ, le royaume de Dieu, et de l'autre côté, il y a le royaume des ténèbres, avec les princes des ténèbres. Ce royaume installe toutes sortes de principautés sur cette terre pour maintenir des sociétés entières, maintenir des hameaux, des villages, des villes entières sous leur emprise. Et donc ce monde invisible que nous ne voyons pas, c'est un monde invisible, certes invisible mais réel, ce monde-là exerce une influence et provoque toutes sortes d'événements sur cette terre. Soit ce sont des événements qui sont provoqués par le Seigneur au travers de son royaume, le royaume de lumière, ou alors ce sont des événements, malheureusement, eh bien, qui sont là à cause des puissances des ténèbres. Donc voilà, mes amis, la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et les adversaires contre lesquels nous sommes appelés à nous battre ne sont pas visibles, ne sont pas physiques. Comme Paul lui-même nous le dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour nous permettre, mes amis, de combattre nos véritables adversaires, le Seigneur a mis à notre disposition toute une panoplie spirituelle, toute une armure constituée à la fois d'armes, évidemment puissantes, d'armes offensives et défensives. Alléluia. Le Seigneur a pourvu à ces combats. Alléluia. Mais il est important que nous sachions exactement ce qui se passe autour de nous. Il est important, mes amis, que nous puissions avoir cette capacité à voir l'invisible. Car comment voulez-vous vous attaquer à vos adversaires qui sont invisibles si vous ne le voyez pas? Voilà donc la question que nous nous sommes posée après avoir fait une sorte d'état des lieux concernant ce monde qui nous environne, et cela à la lumière de la parole de Dieu, après avoir réalisé combien, mes amis, l'invisible influençait le visible, et comment, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous influencer l'invisible afin d'apporter des changements concrets dans le monde visible. Nous nous sommes donc posé cette question du comment. Comment voir? C'est une chose de savoir qu'on est cerné par des réalités invisibles. C'est une chose de savoir que nous avons à combattre contre des esprits méchants, contre des principautés démoniaques, contre les hôtes des abysses. Mais ça n'est une autre d'avoir cette capacité à voir ces réalités spirituelles. Alléluia. Aujourd'hui, j'essaie de rappeler tout cela avant de continuer, puisque il y a plusieurs semaines que nous avons eu à examiner, à nous poser cette question. Et pour répondre à cette question du comment voir l'invisible, nous nous sommes tournés vers deux serviteurs de Dieu qui ont marqué leur époque. Deux serviteurs de Dieu qui ont servi les desseins de Dieu dans leur génération. Deux leaders, deux serviteurs qui ont marqué à tout jamais, eh bien, leur génération et même les générations postérieures. Deux héros de la foi biblique. Un dans l'Ancien Testament, il s'agit de Moïse. Et puis l'autre dans le Nouveau Testament, il s'agit de Paul. Alléluia. Ces deux personnes, mes amis, ont eu cette capacité dans leur marche avec le Seigneur, tout en étant dans ce corps de chair comme vous et moi, ils ont eu cette grâce de faire des expériences avec Dieu. Ils ont eu cette grâce de développer cette capacité à voir l'invisible. C'est ce qui leur a permis d'aller plus loin dans leur marche avec Dieu. Alléluia. Ils ont eu affaire à des ennemis, à des adversaires de tout genre. Ils ont rencontré des problèmes, ils ont été confrontés à la tribulation, à l'affliction, à toutes sortes d'épreuves. Ils ont eu à faire face à toutes sortes de tempêtes, mais ces deux héros de la foi, eh bien, ont fini par triompher. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à ce que, arrivés au terme de leur voyage ici-bas, qu'ils passent dans l'éternité. Alléluia. Moïse, d'un côté, Paul de l'autre côté. Les deux ont eu cette capacité à voir l'invisible. Comment sont-ils arrivés à ça? C'est là que nous nous sommes permis d'examiner un peu ces deux personnages. Ce n'était pas une étude exhaustive de chacun d'eux, mais nous avons essayé d'épingler quelques réalités le concernant. Tous les deux partagent beaucoup, beaucoup de choses en commun, n'est-ce pas? Tous les deux ont été des véritables leaders dans leur vie, à leur époque. Tous les deux ont servi le Seigneur avec abnégation, avec dévouement, avec consécration. Tous les deux s'étaient oubliés eux-mêmes pour la cause du royaume de Dieu ici-bas. Oui, ils partagent beaucoup de choses en commun. Cependant, comme nous l'avions souligné, il y a deux vérités essentielles qui les ont habitées et qui leur ont permis de voir l'invisible, d'avoir cette vision de la vie et de l'éternité qui va au-delà du visible. Les deux éléments essentiels, ici je récapitule, les deux éléments essentiels que nous avons vus concernant à la fois Moïse et Paul sont la foi et le renoncement de soi. S'ils ont été plus loin, c'est parce qu'ils avaient appris à faire de Dieu leur priorité. S'ils ont été loin, c'est parce que tous les deux ont eu cette capacité à voir l'invisible. Nous avons vu avec Moïse, dans Hébreux 11, que c'est par la foi qu'il renonça à ce statut de prince d'Égypte, qu'il renonça au prestige, qu'il renonça à toutes ses richesses qui procuraient aux gens une jouissance éphémère pour se tourner vers Dieu et aller plus loin parce que, eh bien, Moïse regardait, avait le regard au-delà du temps et de l'espace, il voyait l'invisible. Alléluia. L'invisible par excellence. Et cela l'a soutenu, cela l'a aidé dans sa marche avec Dieu. Il a rencontré beaucoup d'épreuves. Lisez, mes amis, l'Ancien Testament, et en particulier les 5 livres qui nous a légués, et vous verrez combien cet homme a été confronté à toutes sortes d'épreuves. Vous voyez ? La foi, mais aussi le renoncement de soi. Voilà les deux vérités qui ont d'abord habité Moïse et qui lui ont permis d'aller plus loin. Car plus nous sommes habités par ces deux vérités, plus nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons aux choses de la terre, car nous sommes appelés à marcher non pas par la vue, mais plutôt par la foi, en renonçant à ces choses. Et en se laissant conduire par la foi, eh bien, ces gens, ces deux, ont fini par vivre avec une conscience que tout autour d'eux, il y avait des réalités vivantes. Alléluia. Tout autour d'eux, il y avait donc des puissances des ténèbres, mais il y avait aussi le royaume de Dieu. Alléluia. Et tous les deux avaient compris qu'ils pouvaient amener, apporter des changements dans le monde visible en influençant le monde invisible. Comme du reste, Daniel vous rappelait. Donc la foi et le renoncement de soi. Et par rapport à ces deux éléments essentiels, eh bien, nous avons commencé avec la foi. Nous avons consacré déjà quelques dimanches où nous avons parlé de la foi. Et j'aimerais aujourd'hui revenir sur cet enseignement du Seigneur. Enseignement qu'il a donné en réponse à la requête de ses disciples, en réponse à la requête, à la demande des apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi. La foi en Dieu et puis la foi de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 17. Maintenant que j'ai planté le décor, nous pouvons continuer, n'est-ce pas? Je vous ai rafraîchi un peu la mémoire. Vous comprenez? Vous savez qu'il y a deux éléments essentiels si nous voulons voir l'invisible, si nous voulons être conscients des réalités qui nous entourent. Luc, chapitre 17. Un peu. Il faut retrouver tout ça. OK. À partir du verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. On se serait attendu que le Seigneur leur donne une recette, une formule toute faite, qui leur montre le chemin mystique, qui les amènerait tout droit à l'expérimentation de cette foi. Non, le Seigneur va répondre donc à cette prière, à cette requête, par un enseignement qui contient, mes amis, des vérités profondes sur la foi à laquelle le Seigneur nous appelle, cette foi dont nous avons besoin pour entrer dans l'univers des miracles. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il, il enchaîne, hein, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure, ou fait paître son troupeau, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Après cela, tes besoins et tes attentes seront rencontrés. » Alléluia. aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Serviteurs inutiles, voilà ce que nous sommes. Nous ne devons jamais oublier cela. Alors quand on voit autour de nous des serviteurs qui sont imbus d'eux-mêmes, quand on voit des pasteurs qui vous donnent l'impression qu'ils sont spéciaux, quand on voit tous ces gens avec des galons d'évêques, d'archevêques, je parle du monde protestant évangélique, quand on voit comment, mes amis, ils sont gonflés par le syndrome du bris, on se dit, mais est-ce que ces gens lisent-ils la parole de Dieu? Savent-ils ce que le serviteur est appelé à être un serviteur inutile? Car si nous pouvons prêcher, celui qui nous rend capable. Si nous pouvons prier, celui qui nous rend capable. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai puis tout, prêcher, prier pour les malades, annoncer le royaume de Dieu. J'ai puis tout par celui qui me forte. Si tout vient, tout nous vient de lui, alors il n'y a aucune raison de redire notre coup. Il n'y a aucune raison de croire que nous serions quelque part spéciaux ou spéciales parce que Dieu nous aurait donné tel ou tel autre appel. Vous de même, moi de même, toi de même, quand tu auras fait tout ça, dis simplement, je n'ai fait que faire ce qui m'a été ordonné. Je suis un serviteur inutile. Augmente-nous la foi. On a vu qu'il ne s'agissait pas de la foi qui nous sauve, puisque cette foi dont les questions ici est quantifiable. Elle peut être petite ou elle peut être grande. Le Seigneur le dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, voyez, eh bien, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer, eh bien, il vous obéirait. Donc, c'est une foi quantifiable. Elle peut être grande, elle peut être petite. Or, la foi du salut, eh bien, n'est ni grande ni petite. On ne peut pas être moins sauvé que l'autre qui aurait une grande foi dans le salut. On est simplement sauvé. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est donc par la foi que nous venons en Dieu, par la foi que nous entrons dans une relation vivante avec lui, essentielle. C'est aussi par la foi que nous sommes appelés à marcher. C'est par la foi que nous pouvons mener une vie qui lui soit agréable. Alléluia. Et donc nous voyons que la foi occupe une place importante dans notre marche avec Dieu. Nous la trouvons au début de l'expérience chrétienne, nous la trouvons pendant l'expérience chrétienne, nous la trouvons également à la fin. Alléluia. Car ne pourront, eh bien, entrer dans la gloire que ceux qui auront demeuré dans la foi. C'est ainsi que le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur terre? Et donc, nous avons tout intérêt à entretenir la foi. C'est une réalité dynamique dont nous avons besoin de, comment? Qui a besoin d'être prise de, comment? Besoin que nous puissions, voilà, lui octroyer toutes sortes de soins pour que cette foi puisse grandir. Donc, cette foi ici dont il est question, comme nous l'avons vu, c'est la foi qui nous fait entrer dans le domaine surnaturel. La foi qui nous permet de vivre et d'expérimenter le règne de Dieu dans notre vie par rapport aux problèmes, par rapport aux besoins. Il y a des montagnes qui se dressent devant nous, et bien animées par cette foi, remplies de cette foi, nous ordonnons, nous décrétons que notre route soit dégagée. Et les choses arrivent comme nous l'aurons proclamé ou déclaré. Alléluia. Et donc, il s'agit de cette foi. Alors, cette foi-là, comment naît-elle en nous? Ou du moins, comment cette foi du salut peut-il atteindre cette dimension qui nous amène à entrer dans l'univers de miracles? Eh bien, en regardant autour et alentour de cette parabole, qui est riche, j'ai déjà eu à le dire, je me permets de revenir là-dessus, autour et alentour de cette parabole, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a, mes amis, dans cette parabole, un enseignement riche quant à la foi dont nous avons besoin pour vivre des miracles. Nous avions donc fait une première observation. Nous avons vu que l'enseignement principal que nous trouvons dans cette parabole s'articule d'une part autour de la condition du serviteur et de sa relation avec son maître, et d'autre part de la relation du maître avec son serviteur. Cela est important. Tout tourne autour de ça. La condition du serviteur. Il doit en être pleinement conscient. Voyez-vous? Ensuite, sa relation avec son maître. Voyez-vous? Et puis, la relation du maître avec son serviteur. Voilà, mes amis, la première observation que nous avons faite. La deuxième, c'est que pour le serviteur, pour celui qui est appelé à servir, celui qui a cette relation avec son maître, eh bien, doit savoir que dans cette relation, le maître et sa volonté restent la priorité. Alléluia. Voyez? Le maître, le patron et sa volonté restent la priorité. Ça nous montre, mes amis, ce que nous sommes appelés à être et à faire. Si nous voulons vraiment que le Seigneur puisse faire naître en nous cette foi qui nous amène à entrer de plein pied dans l'univers de miracles. Et gloire au Seigneur. Donc, il y a d'un côté le maître avec sa volonté. Et de l'autre côté, il y a le serviteur qui n'a d'autre volonté que de se soumettre à la volonté de son maître. Alors, ce serviteur-là doit assumer pleinement son être, c'est-à-dire ce qu'il est véritablement, doit assumer sa condition. Vous voyez, il n'est pas du tout question qu'il pense qu'il pourra devenir, alors qu'il restera autant de temps auprès de son maître, qu'il devienne un sous-maître, un deuxième maître. Voyez-vous comme on en a, tu as le DG, tu as le DG adjoint, tu as le directeur, et puis tu as le sous-directeur, tu as le chef de service, dans le monde c'est comme ça se passe, et le sous-directeur, etc., ou le sous-chef de service. Non, pas du tout. Il y a le président, il y a le vice-président, dans certaines démocraties. Non. Ici, eh bien, les choses sont telles qu'elles sont. On ne peut pas les changer. On est serviteur, point barre. Alléluia. Quelle que soit la place qu'on occupe dans l'œuvre de Dieu, on est serviteur. Et on ne doit jamais oublier qu'on est logé tous à la même enseigne. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'enseigne de la grâce. Qu'on soit apôtre, qu'on soit docteur ou enseignant, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste ou prophète, eh bien, tous mes amis, nous partageons un même dénominateur commun. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes appelés à servir. Il n'y a pas de quoi être fier parce qu'on est prophète. Or, aujourd'hui, c'est devenu des titres. Quand quelqu'un a fait une thèse doctorale, eh bien, il est fier. Il sait combien cela lui a coûté. Des années, d'abord le premier cycle, puis le deuxième cycle, et puis la passerelle pour intégrer une école doctorale, et puis ensuite la thèse pour laquelle il aura pris 5 ans, pour certains minimum. Et c'est seulement au terme de ce parcours-là qu'il décroche enfin le titre de docteur dans telle ou telle autre discipline. Et la personne a de quoi être fière. Ils avaient commencé les études d'économie avec les amis. Ils ont terminé ses études. Eux sont restés au niveau du deuxième cycle. Mais lui a été au-delà. Donc il y a de quoi être fier, voyez-vous. Et à cause de ça, ben, il peut se lancer dans la recherche. Il peut enseigner à l'université, il peut occuper de hautes fonctions. Voyez-vous? Parce qu'il le mérite. Parce qu'il en a les compétences, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il est question du royaume de Dieu, eh bien, nous sommes tous serviteurs, quelles que soient les expériences que nous arrivions à faire avec le Seigneur, quel que soit le nombre d'années dans le Seigneur, quelle que soit, mes amis, notre connaissance, nous pouvons, grâce à des études de théologie, des études bibliques ou des philologies bibliques, se retrouver avec un cerveau à plusieurs étages, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes des serviteurs. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas donné la Bible pour que nous fassions de la théologie. La théologie ne doit pas être considérée comme étant un but en soi. Or, aujourd'hui, tout le monde veut avoir un titre, tout le monde veut avoir une photo avec une toge, avec une marque sur sa tête. Voilà, moi aussi j'ai ma maîtrise, c'est bien, voyez. Mais dans le domaine biblique, les études sont un moyen pour mieux servir le Seigneur, mais aussi pour servir son peuple. Ça sert à quoi d'avoir des titres et des titres et ne plus être en mesure de nourrir le peuple de Dieu? J'en ai connu qui se sont égarés dans ces études-là, en voulant aller trop loin dans le domaine de la théologie. Ils ont fini par être influencés par ce que nous appelons la théologie libérale, qui nie tout ce qui est surnaturel, qui met la Bible sur le même pied d'égalité que n'importe quel ouvrage littéraire. Et par conséquent, eh bien, ils approchent la Bible avec toutes sortes de méthodes d'études, d'herméneutique, qui viennent des différentes disciplines. Voyez. Il y en a qui se sont perdus. Nous sommes serviteurs. Alléluia. Et la fois dernière, nous avons vu que pour que le serviteur puisse accomplir pleinement ce que son maître attend de lui, eh bien, il faut, premièrement, qu'il soit pleinement conscient de ce qu'il est, conscient de sa condition. Il est serviteur. Et pour mieux comprendre sa condition, et donc j'ai recouru au grec, où ici, c'est le terme doulos, esclave, qui est utilisé. Voyez-vous? Car même dans la parole de Dieu, vous avez les diacres sont des serviteurs, n'est-ce pas? Les serviteurs domestiques, on les appelle des serviteurs, n'est-ce pas? Et donc, mais ici, c'est esclave, avec tout ce que cela entraîne. Et donc, puisqu'il doit assumer pleinement sa condition, il doit alors savoir qu'il appartient à un maître, pas à deux, pas à trois. Voilà. Il appartient à un seul. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous pouvez me saluer. Certains sont en train d'être secoués par la fatigue, je comprends. Le week-end aura été long, demain c'est encore férié. Donc vous aurez tout le temps de vous reposer. Voyez? Et donc il appartient à son maître. Le Seigneur lui-même a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est impossible. Et donc, l'esclave doit en être conscient. Il n'est pas du tout indiqué de profiter d'un moment de libre pour laisser un peu son serviteur aller faire quelques heures supplémentaires chez un autre maître. Non, le maître nous veut tout entier. Il ne veut pas nous partager. Comme il n'accepte pas un cœur partagé, la duplicité. Non, voyez. Voilà une des conditions pour que l'esclave vive pleinement sa condition. Car sans cette condition-là, il est impossible qu'il mange, il est impossible qu'il boive. Alléluia. Il est impossible qu'il expérimente la puissance de son maître. En d'autres mots, il est impossible que le maître, qui est l'initiateur de la foi et l'accomplisseur de la foi, puisse la susciter. Il y a donc des choses qui doivent être faites en amont. Et là, nous sommes en amont. Être esclave, appartenir à son maître. Ensuite, dépendre totalement et entièrement de son maître. Voilà. Je n'ai pas mangé aujourd'hui mon maître qui connaît toutes choses, sait pourquoi je n'ai pas mangé. Je trouve dans la parole de Dieu des gens qui ont vécu des miracles particuliers, qui étaient dans la même condition que moi, qui n'avaient rien à manger, mais le Seigneur leur a envoyé un corbeau qui leur a apporté de la viande. Donc mon Dieu est capable de tout. Il tient le monde entier dans sa main. Mais pourquoi permet-il que je ne mange pas vraiment comme j'aimerais? Il sait pourquoi. Et donc cela ne doit pas être une excuse pour aller traficoter, pour avoir commerce avec un autre maître qui lui promet monts et merveilles. Oh, dans le monde, il y a plusieurs maîtres. Vous voyez? Il y a le diable, mais il y a ses agents. Il manipule. Vous voyez? Dépendre totalement de son maître. Alléluia. Nous devons dépendre entièrement de notre maître. Nous devons savoir que sa volonté, eh bien, est une priorité pour nous. Nous devons savoir qui nous sommes. Qu'es-tu de toi-même quand tu te regardes dans le miroir céleste, pas dans le miroir des hommes. Vous voyez, tu te regardes dans le miroir, tu mets la main dans la poche et dis « Oh là là, gaïoïo, tu fais ça. Voilà, je suis ceci, je suis cela, tu t'habilles comme il faut. » Oui, tu as une certaine image. Évidemment que le miroir te renvoie. Oui. Mais la vraie image, c'est celle que la parole de Dieu nous renvoie. Alléluia. Qu'es-tu de toi-même? C'est important, mes amis. Beaucoup sont en crise d'identité dans le Seigneur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tu es appelé à être esclave de Jésus. Ça, c'est la première condition qu'il faut remplir. Si tu veux que ce Seigneur-là puisse faire naître la foi, cette foi dont tu as besoin pour expérimenter des grandes choses sur cette terre. Cette foi dont tu as besoin pour faire descendre le ciel sur la terre, pour décréter les choses et voir les choses s'accomplir. C'est lui qui initie cette foi. C'est lui qui la génère en nous. Alléluia. Et c'est encore lui qui l'a fait grandir. Mais dans certaines conditions. Voyez. Qu'es-tu de toi-même? Ça, nous devons le savoir. Voyez-vous? Qu'es-tu de toi-même? Concernant Jean-Baptiste, le précurseur de la venue du Messie, il nous a dit au chapitre 1er de Jean qu'un jour, deux gens envoyés par des chefs religieux juifs sont allés trouver Jean-Baptiste parce qu'ils avaient appris. Je crois que certains même avaient vu que Jean-Baptiste prêchait, beaucoup de gens allaient vers lui, qu'il baptisait les gens. Le bruit est arrivé jusqu'à Jérusalem. Alors les chefs religieux ont voulu en savoir davantage. Qui est cet homme-là? Nous avons appris que son père était sacrificateur, Zacharie. Hein? Nous savons qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais pourquoi fait-il cela? Allez vous enquérir auprès de lui. Ces gens sont arrivés. Ils lui ont posé la question. Qui es-tu? Dis-nous qui tu es. Es-tu, à cette question, qui es-tu? Il répond tout de suite. Il dit, je ne suis pas le Messie. Alléluia. Il commence par la négation. Si vous venez pour que je vous dise que je suis le Messie à cause de tout ce que j'ai fait, locuta. Je ne suis pas le Messie. Moi, je ne suis pas Christ. Alléluia. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Si tu n'es pas le Christ, es-tu Élie? Oh, c'était flatteur, hein? Oui ou non? Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Ah bon? Élie? Ah bon? Enfin, non. Il dit, je ne le suis pas. Mais es-tu le prophète? Il répondit, il savait qui il était. Il continue. 22, s'il vous plaît. Il lui dit alors, qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'es-tu de toi-même? Ben, il va se faire l'écho de la parole du prophète Esaïe. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe. Et si nous descendons, et là il annonce déjà celui qui venait, dont digne de délier les courroies de sa sandale. Jean-Baptiste savait exactement qui il était. Nous aussi, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mes amis, si nous ne savons pas qui nous sommes, que dis-tu de toi-même? Toi qui m'entends ce matin, que dis-tu de toi-même? Toi qui es là, toi qui nous suis sur les réseaux sociaux. La réponse à cette question est déterminante. Voyez? Par rapport au Seigneur, eh bien, il n'y a qu'une seule réponse. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Nous sommes appelés à le servir depuis le Saint-Lieu, depuis sa demeure céleste. En tant que sacrificateur, nous entrons dans sa présence. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons loué le Seigneur. Nous l'avons adoré. Nous lui avons exprimé notre reconnaissance. Nous nous sommes réjouis devant sa face, en sa présence. Nous sommes prêts à toutes ses activités sacerdotales. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à le servir au-delà du voile, à le servir dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Et donc, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. Mais pour mieux comprendre ce que nous sommes véritablement en tant que serviteurs, eh bien, il y a l'image de l'esclave. Nous sommes les esclaves du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Esclaves du Christ. Voyez-vous? Il n'y a pas de contremaître dans le royaume de Dieu. Et dis-moi, ça fait 20 ans que je suis converti, j'étais un simple chrétien, un simple fidèle, et puis je suis monté d'échelon. Maintenant, j'ai peut-être le grade de contremaître ou vice-contremaître. Même les ministères ne sont pas, mes amis, des galons que le Seigneur nous donne. Ah non, je suis diacre maintenant. Frère, attention, je suis diacre. Appelle-moi papa diacre. D'ailleurs, tu ne sais pas, demain je vais passer ancien. Voyez? Pasteur, oh là là, n'en parlons même pas. Pour certains, c'est le summum. C'est comme ça que nous avons créé une sorte de bourgeoisie pastorale. Il y a des corporations pastorales à gauche, à droite. Voyez? Des gens intouchables. Voyez? Certains vont même plus loin. S'habiller comme ça, normalement, non. Il faut une tenue qui sort de l'ordinaire. Voilà, on va chercher des toges, des tenues comme des cardinaux catholiques, des grosses croix sur le ventre. Voilà, il faut les appeler Monseigneur. Et là, j'avais ramassé un de nos pasteurs. Hein. Je sais qu'il vit maintenant en Europe. Il est avec nous, pasteur des assemblées de Dieu, et puis il va nous représenter auprès de l'ECC. Et à la première assemblée générale à laquelle j'ai pris part, je crois que c'était en 2014, monsieur était là. Bon, nous appelons mon Seigneur. Je suis sauté là où j'étais. Pour moi, j'étais parti. Entre-temps, malheureusement, les choses ont évolué. Des choses que le pasteur Vernon condamnait. Vous voyez? C'est terrible. Chasser les naturels, il revient au galop. Je regarde à celui qui était dit, tiens, c'est le pasteur tel. Il dit, oui, monseigneur. Ah bon? Nous avons des monseigneurs maintenant. Eh oui, attention. Nous aimons les titres. Évêque, oui, c'est biblique. Et même évêque, ce n'est pas un titre honorifique. Évêque veut dire simplement un surveillant, épiscopos. C'est tout. C'est lui qui veille sur les gens. Il y en a, ils ont quatre âmes à l'église. Les autres, c'est la famille. Tout le village va là-bas par instinct grégaire. Voyez? Et puis il devient évêque. Il n'a gagné que deux âmes sur lesquelles il veille. Les autres, là, c'est la famille. Il se retrouve, il mange le foufou, la chikwang, tout ce que vous voulez. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, mais c'est la famille. Voilà. Ils sont là. Mais il est évêque. 6 mois plus tard, il devient archevêque. Ah, c'est encore, je suis gentil. Hein? Il faut prononcer ça en anglais. Archbishop. Et ça crée des problèmes avec des femmes dans ces églises-là, des mamans. Voilà. L'archbishop, bishop, bishop, quoi? Donc pour ces femmes-là, dit notre pasteur, viens bishop, quoi? Hein? Chigny. Je lui parle dans sa langue. Vous voyez, mes amis, ils ne comprennent pas. Donc, en bon, ça veut dire quoi? C'était leur pasteur, très simple. Et puis, désormais, les bishops, maintenant, quand ils prêchent, ils doivent avoir la main dans la poche. Voilà. Maintenant, il faut l'appeler Daddy Bishop. Des jeunes gens à peine 30 ans, 35 ans. On en voit. Ils sévissent sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours tirés à 4 épingles. Pour certains, 5 épingles. J'exagère un peu. Voyez? Nous sommes des serviteurs. Nous devons savoir qui nous sommes. Alléluia. Voilà la première chose. Et nous allons terminer par là, parce que je vous rappelle des choses que nous avons eu à voir il y a quelque temps d'ici. La première chose que le serviteur doit faire dans sa relation avec le maître, il ne peut assumer pleinement cette relation. Il ne peut satisfaire son maître à travers cette relation que dans la mesure où il est conscient de sa condition. Il est appelé esclave. Un esclave n'a aucune raison de s'enorgueillir. Voilà. Ah, bon, je suis esclave, hein? Tu es esclave. Tu n'as même pas de volonté. Tu as même un sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Nous appartenons à un seul maître. Le Seigneur de gloire. Le Dieu d'éternité. Alléluia. Il nous a choisis. Et donc, le serviteur doit veiller sur sa condition d'esclave. Voilà. Et nous trouvons dans la parole de Dieu beaucoup d'exhortations qui nous poussent à veiller sur nous-mêmes, à veiller aussi sur notre ministère. Pas seulement le ministère classique, mais nous avons cette responsabilité de servir le Seigneur, nous tous, n'est-ce pas? Dans la louange, dans l'adoration. Nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur l'enseignement, veiller sur qualité de notre relation avec le maître. Et cela n'est possible que si nous veillons à ne jamais oublier que nous sommes les esclaves de Jésus. Voilà la première condition si nous voulons que la foi, cette foi dans le miracle, puisse naître en nous. Alors travaillons notre proximité avec Dieu, travaillons notre condition d'esclave, faisons de la volonté du Seigneur notre priorité. Ainsi, les conditions vont commencer à se mettre en place pour que naisse cette foi qui va nous conduire à entrer dans l'invisible. Visiblement, je ne vois pas le miracle. Mais puisque j'évolue dans ce monde spirituel, j'ai cette capacité à voir les choses avant que les choses arrivent. Je sais que la porte va s'ouvrir. Il n'y a rien, aucune évidence que la porte s'ouvrira. Tout le monde a échoué sur cette voie-là. Il y a beaucoup de pierres à déplacer, il y a des montagnes. Tous ceux qui se sont hasardés n'ont jamais été plus loin. Mais toi, Dieu te dit, pas. Tu saisis la parole, tu regardes, tu dis, moi j'avance. Quand tu avances là, tu te vois déjà dans cette voie-là, allant de succès en succès, alors que personne n'a réussi. Tu as vu l'invisible par la foi, et par la foi tu rends possible ce qui est invisible. Alléluia. Ainsi tu avances. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier, prendre un petit moment dans la prière. Demander au Seigneur de nous aider à ne jamais oublier qui nous sommes. Que chacun réponde à cette question, question à laquelle Jean-Baptiste a répondu sans hésitation, sans tergiverser. Je ne suis pas le Christ. Dans l'Église, je ne suis pas le maître de l'Église. Alléluia. Non, cette Église ne m'appartient pas. Cette Église n'appartient pas à ma famille. Cette Église appartient au Seigneur. Donc je dois me comporter en sachant que je suis serviteur, esclave dans l'Église de Jésus, chargé de la servir. Voilà. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à vivre pleinement cette condition d'esclave et de nous aider à grandir dans notre relation avec lui. Oh, alléluia. Une relation qui croît, qui grandit. Lorsque nous marchons dans la sainteté, lorsque nous marchons dans la sanctification, lorsque nous demeurons dans la crainte de son nom, lorsque nous éloignons de nous le mal. Mes amis, là nous créons des conditions en amont pour que le Seigneur, qui est l'initiateur de la foi, eh bien puisse l'initier en nous et puis ensuite l'amener à son plein accomplissement. C'est-à-dire la foi finit alors par rendre possible le règne de Dieu en nous, le règne de Dieu dans nos besoins. Ô Seigneur, prions tous ensemble. Si nous pouvons nous tenir debout. Oh, alléluia. Que chacun se tienne devant Dieu et lui parle en toute franchise. Que dis-tu de toi-même? Tu as peut-être cru que tu étais spécial. Quand tu prêches, les gens tombent. Quand tu prêches, quand tu pries pour des gens, tu vois le résultat. Et gloire au Seigneur. Et avec le temps, tu as cru que tu étais spécial. C'est de l'orgueil. Tu restes un serviteur. Tu es appelé à être esclave du Christ et à vivre pleinement. D'esclaves. Alors, prions tous ensemble. Si cela nous est arrivé de croire que nous étions autre chose que des simples serviteurs appelés à être des esclaves du Christ, alors demandons pardon. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Tu es même allé de succès en succès, de gloire en gloire. Voir Seigneur, ô Dieu, développe en nous cette capacité de voir l'invisible, cette capacité, Seigneur, d'influencer l'invisible et de voir le changement sur le plan visible dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille. Seigneur, et pour cela, nous devons être habités par cette foi qui vient de toi, cette foi qui naît dans certaines conditions, dont celle, Seigneur, de vivre pleinement la condition d'être tes esclaves, la condition de privilégier notre relation avec toi, de faire de toi notre priorité, de faire de ta volonté, Seigneur, notre seul leitmotiv. Oui, de faire ta volonté notre nourriture. Tant que nous n'aurons pas fait ta volonté, que nous nous sentions affamés, que nous nous sentions privés de quelque chose de vital. Oui, merci pour ta parole. Aide-nous à vivre pleinement notre condition d'esclaves. Merci Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.